Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut, et bienvenue dans cet épisode bonus de Parlons Bitcoin. Un épisode un peu plus personnel avant de reprendre la saison 2. Alors cela fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, j'ai voyagé un peu, je suis allé à Surfing Bitcoin en France, une excellente conférence que je recommande, ça fait très très plaisir de voir des bitcoiners en vrai, alors si tu peux, l'année prochaine, fais le déplacement. J'ai fait des trucs par-ci par-là, et surtout, j'ai démissionné de mon job pour me lancer dans de nouvelles aventures, dont le podcast. Dans cet épisode, je vais te lire deux de mes articles récents et te raconter pourquoi j'ai fait ce choix, pourquoi je produis le podcast et pourquoi on est là. J'ai une vision que je veux manifester et tu comprendras pourquoi Bitcoin y est intimement lié. Avant de commencer la saison 2, un peu de nouveauté. Je mangeais avec des amis l'autre soir et ils me disaient « Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de communauté autour du podcast, de lieu où les gens peuvent venir faire des commentaires sur les épisodes, poser leurs questions, se faire aider, proposer des idées. » Et là, je me suis dit « Ah, mais c'est vrai Antoine, Loïc, c'est bien vrai ce que vous dites. » Eh bien, cette volonté a été exaucée. Cet endroit de rassemblement a été mis en place. Tu peux venir y parler Bitcoin avec moi et les autres auditeurs. C'est un endroit au coin du feu numérique pour poser tes questions et interagir avec d'autres Bitcoiners. Ce coin du feu, c'est sur Telegram, une application que tu connais peut-être déjà, sinon je t'invite à la télécharger. Tu peux également l'utiliser sur ordinateur directement. Le lien du groupe c'est t.me/parlonsbitcoin. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode et sur le site parlonsbitcoin.com. Une autre information pratique à partager, sache que le podcast n'est pas uniquement sur le site internet de Parlons Bitcoin, mais également sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et d'autres plateformes de podcasting. Je t'invite donc à utiliser ton lecteur favori. Et si jamais tu utilises Apple Podcasts, sache qu'il est possible de me laisser un commentaire et de déposer des étoiles. Je pense que c'est une bonne façon de partager la bonne parole en faisant peu d'efforts, donc la porte t'est ouverte. Et pour terminer, si tu veux me soutenir financièrement et me faire un don ponctuel ou devenir mécène, écris-moi un email à emmanuel@parlonsbitcoin.com, on va s'arranger ça. Merci de ta patience, on démarre l'épisode avec un rêve. Un rêve d'abondance dorée. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'abondance. Je te partage ce rêve d'abondance parce que c'est par le pouvoir de nos rêves et de notre imagination que nous créons le monde de demain. Tout ce qui apparaît devant nous a d'abord été imaginé. Le piano a été rêvé avant d'être construit. Lorsque nous cessons d'imaginer, nous laissons la place au pessimisme qui se complaît à errer dans un jardin emmuré. Des murs donnant l'impression que toutes les idées ont été sondées. Une impression fausse, parce qu'elle refuse de voir que dans la réalité, les chemins n'ont jamais été tous explorés. Pour créer un nouveau chemin inexploré, il suffit de laisser l'imagination faire son œuvre, la laisser nous surprendre et explorer la nouvelle route qu'elle a fait apparaître. L'âge d'or se manifestera d'abord dans ton esprit et dans ton cœur. C'est à toi de l'amener si, comme moi, tu veux créer un monde meilleur pour des générations millénaires d'humains. Place à l'optimisme réaliste, place à l'abondance, place au rêve. Une place ronde. Je n'ai plus vraiment de corps. Ma présence est plutôt faite d'énergie blanche et dorée, et tout me semble normal. Je suis sûrement en train de rêver. Je prends conscience que je suis au centre d'une place toute ronde, entourée de bâtisses. Les découpant et menant au centre de la place, j'aperçois de délicats pavages. Est-ce des pavés ou des blocs d'énergie dorée? Difficile à dire, mais c'est à la fois beau et très soigné. je réalise que ce lieu est un oasis créé pour inviter d'autres êtres énergie à venir s'y promener et y prendre plaisir. Ça se voit jusque dans les minutieux détails architecturaux dont regorgent les édifices, et puis surtout, ça sent bon. Il fait beau, et ça sent prodigieusement bon. « Hé, vous là, vous pouvez m'aider ?» Je me fais interpeller par un homme, ou du moins, la forme que prend la conscience humaine dans cet endroit. Je perçois que la personne qui m'appelle est un chef, un cuisinier passionné. Une passion. « Venez, venez, j'ai besoin de votre aide !» Le cuisinier, rayonnant de passion, me téléporte dans une des bâtisses, directement à côté des fourneaux. Il m'explique. « Bon, écoutez, j'essaie d'améliorer mes recettes de canard laqué, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. » Il me partage son problème instantanément au centre de ma conscience. Je réalise qu'il travaille depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne à raffiner ses plats. Il n'éprouve pas de plus grand plaisir que de fournir des plats exquis à tous les êtres qui viennent se reposer sur la place. Sa passion, c'est d'imaginer, concevoir et sublimer les saveurs de ses plats, avec pour seule récompense la perpétuelle surprise de ses convives. Avec toutes ses années de pratique, il en est venu à développer des technologies fabuleuses pour l'assister. Il m'emmène pour un tour au cœur du problème. Améliorer la recette du canard laqué. Nous voilà non seulement téléportés, mais également miniaturisés. Il nous a emmenés directement entre la peau et la chair du canard en pleine cuisson. Nous sommes si petits que nous voyons les structures des molécules changer sous nos yeux avec la chaleur de la cuisson. Vu d'ici, cela ressemble à des arrangements géométriques merveilleux qui changent et évoluent dans une harmonie à couper le souffle. Nous sommes au cœur de la chimie de sa cuisine. Là, il me dit « Bon, vous voyez le croustillant de la peau là ? J'ai retravaillé l'architecture. Je pense que ça devrait être plus croquant sans que ça soit sec pour autant. Ça devrait être vraiment pas mal. » Il a tant travaillé son art que pour aller chercher de nouvelles idées, il s'est rendu aux premières loges du spectacle moléculaire. Seulement, il lui manque un ingrédient, le convive. « Voulez-vous bien goûter et me dire ce que vous en pensez ?»« Oui, bien sûr. » Il nous ramène sur la place et je prends une bouchée de son canard laqué. Sublime, divin, un chef-d'œuvre. J'ai une si grande gratitude pour la passion qu'il a mise en œuvre que j'en perds mes mots. Le cuisinier le voit et sourit. Il a réussi à nouveau. De la générosité. Je lui demande « Eh bien, combien vous dois-je pour cela ? Laissez-moi vous remercier, c'était sublime. » Là, il me regarde et rit. « Pardon ? Mais enfin, c'est gratuit, voyons !» Plutôt que de me parler, il me transmet ses raisons spontanément à ma conscience. Les clients qui viennent à l'Oasis sont si riches et si généreux, me transmet-il, qu'il a lui-même bien plus d'argent que nécessaire depuis longtemps. Personne n'a rien payé ici depuis des lustres. Tout est gratuit. Il sourit parce qu'il sait que je viens d'un monde pré-abondance. Il sait que c'est nouveau pour moi, s'en réjouit et poursuit avec d'autres détails. « Personne ne paie rien », me dit-il. Cependant, en contrepartie, tout le monde redonne en explorant ses passions. Tout le monde travaille ardemment à améliorer son art. Nous avons tous le nôtre et l'entraide nous encourage à l'affermir. Il me rappelle que sans convives, il n'aurait pas pu améliorer sa recette. Sans habitants, les maçons n'auraient pas Dieu pour admirer leurs œuvres et les inviter à repousser les limites de leur créativité. Sans les êtres énergie qui viennent profiter de l'oasis, point d'oasis. Tout est interdépendant dans l'abondance. Au fait, n'oubliez pas que si on a pu partager ce moment, c'est par tous les efforts des générations passées. Alors, gardez la barre dans l'espace-temps où vous vous trouvez. Et merci pour les efforts. J'adore mon métier et les convives également. On se revoit dans l'âge d'or. À bientôt. À bientôt. Merci à Ambre, Flavie et Asio pour leur relecture. Et merci à toi, Être Énergie, pour ton écoute. Dans cette dernière partie d'épisode, je vais te partager pourquoi j'ai quitté mon travail et pourquoi je décide de vrai à Bitcoin. Inspiré par les bâtisseurs de cathédrales, je décide d'œuvrer à Bitcoin. Les bâtisseurs de cathédrales savaient l'importance du travail soigné pour construire le beau. Ils savaient que concentrer leurs dépenses d'énergie est nécessaire pour frapper l'esprit humain, pour nous amener vers quelque chose qui nous inspire, une pause, l'observation, la contemplation. Je décide d'œuvrer à Bitcoin parce que j'aime le beau. J'aime admirer les architectures qui ont traversé le temps. J'aime respecter le travail et les messages de nos ancêtres qui nous sont parvenus. Je me réjouis de savoir que la sagesse peut couler de génération en génération lorsque nous y consacrons de l'effort et du soin. Je décide d'œuvrer à Bitcoin parce qu'il est bâti pour durer dans le temps. Il est semblable à une cathédrale numérique dont nous apercevons à peine les premières pierres, ses premiers blocs en somme. Au même titre que les premières pierres de Notre-Dame révélaient, à ceux qui avaient le pouvoir de rêver, l'œuvre construite, Bitcoin révèle, à ceux qui veulent le rêver, un futur meilleur. Je décide d'œuvrer à Bitcoin afin de matérialiser l'âge d'or. Changer le monde. Revenons sur Terre un moment. En pratique, si nous voulons changer le monde, il faut commencer par changer les mentalités. Si nous voulons changer les mentalités, il faut remuer la Terre dans laquelle elles évoluent. La Terre dans laquelle évoluent les mentalités, c'est nos centaines de milliards d'interactions quotidiennes les uns avec les autres. Lorsque nous interagissons avec des amis proches, nous utilisons des mots et des cadeaux. Lorsque nous communiquons de la valeur à un inconnu, nous utilisons de l'argent. Je paie mon ticket de bus au chauffeur que je ne connais pas avec de l'argent. Ensuite, lui achète son sandwich à un autre inconnu avec de l'argent. Il témoigne à son environnement qu'il préfère acheter ce sandwich à ce prix parmi tous les sandwichs du coin, pour un tas de raisons qui sont propres à sa conscience. Ce faisant, cette interaction impacte les mentalités environnantes. Ainsi, l'argent joue le rôle d'Internet des consciences. Il transmet de l'information d'un bout à l'autre des cerveaux. Face aux informations échangées, les mentalités évoluent. Le problème. Quand la transmission sur le réseau est corrompue, toutes les interactions quotidiennes qu'il supporte sont corrompues. Les mentalités qui sont touchées par ces interactions en souffrent. Quand l'argent est corrompu, il y a un bug dans l'Internet des consciences. Répare l'argent, répare les interactions. Répare le terreau des nouvelles mentalités, change le monde. Un argent brisé. Avant de réparer l'argent, il faut comprendre pourquoi il est corrompu. Donc, pour commencer, parlons corruption. Je cite la définition de Wikipédia. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes, dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières, ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Suivons la définition. Lorsque deux individus font une transaction, leur dessein est de s'échanger de la valeur réciproquement. D'une part, le vendeur fournit un produit ou un service, d'autre part, l'acheteur fournit un jeton de valeur, de l'argent. Que se passerait-il si une ou plusieurs personnes, les corrupteurs, voulaient prendre avantage de cette transaction avec pour dessein d'obtenir une rétribution en échange de la complaisance de certains, les corrompus? Si nous étions les corrupteurs, comment nous y prendrions-nous? Et quelle forme prendrait la complaisance des corrompus? Voyons voir. Premièrement, il faudrait idéalement que les individus qui transactent, le vendeur et l'acheteur, ne se rendent compte de rien. Pour ça, l'obfuscation et la complexité sont de bons outils. Si nous travaillons dans les coulisses de la scène, ils pourraient ne pas se rendre compte de notre présence. Ensuite, voulant prendre avantage de la transaction, nous cherchons à extraire une partie de la valeur échangée à leur insu. C'est-à-dire capter une partie du produit ou service échangé, voire capter une partie de l'argent transacté. Vu que nous ne sommes pas sur place au moment de la transaction, nous allons difficilement pouvoir nous accaparer une partie du bien ou du produit vendu. Nous allons également difficilement pouvoir prendre l'argent des mains des individus. Par contre, que se passerait-il si nous étions capables de fausser leur évaluation du prix? Imaginons que l'acheteur et le vendeur évaluent l'échange d'un bœuf à 1000 euros. Imaginons que nous sommes capables de manipuler la valeur des 1000 euros dans le temps, et plus particulièrement de la faire baisser. Les 1000 euros que le vendeur pense recevoir vont changer de valeur de manière quasi invisible à ses yeux. Il aura toujours 1000 euros, mais ne saura pas que leur vraie valeur, leur pouvoir d'achat, a changé. Que par exemple, les 1000 euros ne valent plus que 980 euros l'année d'après. Il en aura peut-être une vague idée, mais rien de bien méchant. Nous sommes dans les coulisses de la scène, cachés derrière le rideau de l'obfuscation et de la complexité. Si nous faisons ça, nous avons réussi à capter 20 euros, ni vu, ni connu. Nous sommes bien dans la définition de la corruption, à savoir perversion ou détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages. Nous avons détourné le processus d'échange à notre avantage, plus 20 euros pour nous, moins 20 euros pour le vendeur. Nous venons donc de décrire l'action du corrupteur. Par sa capacité à manipuler l'argent, il extrait de la valeur à l'insu des individus impliqués dans la transaction. Les individus impliqués n'ont pas pour dessein que la valeur de leur argent change sans qu'ils puissent le mesurer. Corrupteur implique corrompu. Pour que le corrupteur puisse manipuler l'argent, il faut qu'une partie des gens accepte cet état de fait. En particulier, il faut qu'une partie des gens accepte d'utiliser de l'argent manipulable, qui permet d'extraire de la valeur hors de chaque transaction humaine. Je nomme ces gens corrompus dans le sens où ils obtiennent une rétribution en échange de leur complaisance. Quelle complaisance ? Le fait de ne pas prendre le temps de voir la manipulation qui fait intrinsèquement part de l'argent qu'ils utilisent. Quelle rétribution ? Pour ceux qui peuvent se le permettre, l'accès à des emprunts immobiliers qui coûtent de moins en moins cher. Ces emprunts à bas prix abondent et font ainsi monter les prix, éloignant la classe moyenne de l'accès à la propriété. Ils transforment un bien de première nécessité, le logement, en objet de spéculation dont ils profitent de la hausse. Pour d'autres, la rétribution, c'est la jouissance de la montée du prix des actions dans des marchés boursiers, où les gains sont privatisés et les pertes collectivisées. En d'autres termes, les risques sont portés par l'ensemble de la population pour le bénéfice d'une minorité. Pour la classe politique, la possibilité de ne pas devoir rendre des comptes à ses citoyens, parce que face au choix de lever des impôts pour se financer ou de s'endetter sans que la population comprenne l'enjeu, le politique préfère souvent le chemin de plus faible résistance, l'endettement. Pour l'individu, la complaisance de ne pas remettre ses paradigmes en question alors qu'il jouit potentiellement des bénéfices plus hauts est une forme de rétribution. Alors que se passe-t-il ? Le système fiat est construit sur cette prémisse. Il y a transfert de la valeur de l'argent depuis la population vers la banque centrale qui le redistribue à sa guise. Fondamentalement, une partie de la valeur échangée dans chacune des transactions est captée et ramenée tacitement dans les mains des banques centrales à travers la manipulation de la monnaie. Ces entités redistribuent ensuite la valeur de ces richesses à leur point de connexion avec le tissu économique. Ceux qui sont le plus près de la connexion en jouissent le plus, ceux qui en sont le plus loin en souffrent le plus. Ce phénomène est également connu sous le nom d'effet Cantillon. Ici, je cite Wikipédia pour l'effet Cantillon. Une injection de monnaie dans l'économie exerce un effet progressif et différencié sur les prix au fur et à mesure que la monnaie se propage par les échanges à partir du point où elle a été injectée. La cible d'inflation de 2%, les fameux 20 euros sur les 1000, est une information publique. Ici, je cite Wikipédia pour la Banque Centrale Européenne. Le principal objectif de la BCE est de maintenir la stabilité des prix et l'inflation annuelle au-dessous, mais à un niveau proche de 2% sur le moyen terme. Sous prétexte de défendre l'objectif de maintenir la stabilité des prix et en usant d'offuscation et de complexité, la Banque Centrale Européenne joue le rôle de corrupteur. Je recite Wikipédia pour la Banque Centrale Européenne. La BCE jouit d'obligations restreintes en termes de transparence et de faibles systèmes de contrôle démocratique. Si l'objectif de stabilité des prix était louable, on pourrait argumenter que cela bénéficie au plus grand nombre et donc qu'il ne s'agit pas tout à fait de corruption. Mais creusons un peu. Pour commencer, la stabilité de quel prix ? Apparemment, pas ceux de la nourriture, de l'énergie, de l'immobilier ou des actions. Leur prix change à la hausse. Descendons un niveau plus bas. Pourquoi défendre la stabilité des prix ? Le monde n'est pas statique. Il change tous les jours, de manière vaste et large. Je ne vois pas de raison pour laquelle les prix seraient constants. S'il y a eu une maladie dans les champs de blé, le prix du pain va monter. Si nous développons de nouveaux tracteurs qui nous aident à mieux travailler, le prix va baisser. Les prix ne sont pas stables, et tant mieux. Ils permettent de diffuser de l'information dans le système humain. Le prix du blé qui monte nous indique qu'il faut rémunérer plus cher les agriculteurs pour leur blé. Ceci découle du fait qu'ils en ont moins à vendre et doivent quand même acheter leur repas et payer leurs frais. Si l'objectif n'est pas clairement défini et ne semble pas avoir de sens, je mets en doute la politique poursuivie. Cette captation de richesse, l'inflation, est une taxe cachée et non démocratique, justifiée au nom d'une raison que je ne m'explique pas. Elle favorise les personnes les plus proches des points où la BCE est connectée au tissu économique. Elle favorise l'appauvrissement de la majorité de la population éloignée de ces points de connexion. Si l'inflation est une arnaque sociale issue du passé, que faire aujourd'hui ? Réparer l'argent. Premièrement, s'informer. Se demander à quoi ressemblerait le monde si ce que je disais était juste. Qu'observerions-nous si effectivement nous étions face à un système de redistribution des richesses tacites qui appauvrit la majorité et qui ne dit pas son nom ? Est-ce que les objectifs prétendus des banques centrales tiennent la route ? Que signifie la stabilité des prix ? Qu'y a-t-il derrière ces mots ? Arrives-tu à te convaincre que les prix doivent être stables ? Parviens-tu à définir ce que ça veut dire ? Deuxièmement, s'informer. Bitcoin, c'est de l'argent sans banque centrale. Pas de manipulation de la masse monétaire ou de fixation des taux d'intérêt par un comité central. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que ça implique ? C'est à toi de creuser et ça me fera plaisir de t'accompagner dans l'aventure. Bitcoin. Dans le fond, c'est peut-être un devoir citoyen, un devoir humain, de remettre en question les paradigmes dans lesquels nous vivons. Surtout si la remise en question ouvre la porte vers un monde où l'appauvrissement de la majorité n'est pas mécaniquement impliqué. Un monde où nous ne sommes pas obligés d'investir à tout va pour courir contre une inflation qui détruit la valeur de notre épargne. Un monde où l'artisan est libre de pratiquer son art, libre d'épargner le surplus de son travail dans une monnaie intouchable. Libre de vivre tranquille sans devoir se poser des questions sur l'état des marchés financiers. Un monde où la valeur d'une heure de travail est payée dans une monnaie aussi rare et précieuse que notre temps. Un monde où les outils que nous utilisons sont compréhensibles par nous, construits par nous et ouverts à tous. Un monde où les interactions se font à leur juste valeur, où la coopération devient le mot d'ordre. Un monde hyper bitcoinisé. C'est pour ça que j'œuvre à Bitcoin. Que les artisans artisent.